C'est l'heure de notre invité. Cette semaine, Audrey, on reçoit nul autre que le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.
Oui, Rémi Quirion est détenteur d'un doctorat en pharmacologie de l'Université de Sherbrooke. Il est chercheur en neurosciences et il a été nommé scientifique en chef en 2011.
Rémi Quirion, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on va parler de politique de recherche, d'intelligence artificielle, de diplomatie scientifique. Mais avant de commencer, j'ai une question un petit peu personnelle. Et j'attends évidemment une franchise vraiment totale sur la réponse. Vous allez comprendre pourquoi. Les rapports scientifiques sont tous plus alarmants les uns que les autres. On parle d'un réchauffement climatique pour les 10 prochaines années qui ne sera plus de 2, mais bien de 4 degrés. Les conséquences sont inestimables. Certains disent même cataclysmiques. Les Nations Unies évoquent, je crois, c'est cette semaine, un génocide climatique en parlant des conséquences pour des centaines de millions d'individus. On évoque la 6e extinction massive du vivant. Alors, on est autour de cette table, on est tous des citoyens, des individus normaux, pour certains des parents. Et on se pose tous cette question que je vous pose à vous, qui êtes scientifique et scientifique en chef. Est-ce que ça sent la fin?
Non, moi je suis toujours assez optimiste, là, mais je pense qu'il faut réagir. Et oui, au niveau des Nations Unies, les grands groupes qui de recherche dans le secteur, mais je pense qu'on doit descendre, si on veut, beaucoup plus bas au niveau des citoyens. Donc c'est à nous de s'engager davantage. Chaque petit geste compte. Si on attend après les élus, on ne fera pas grand progrès. Donc, il faut vraiment, nous, le faire individuellement et demander à nos élus de faire davantage en termes de politique gouvernementale.
Donc, si les scientifiques nous alarment, ça ne veut pas dire perdez l'espoir, ça veut dire finalement, mobilisez-vous collectivement et individuellement. C'est ça le message que vous donnez.
Oui, vraiment, c'est ce qu'on doit faire. Et bien sûr, il y a de l'économie, mais je pense que si on va vers plus de travail pour réduire l'impact des changements climatiques, on va créer une nouvelle économie. Donc, on va changer les façons de faire et on est rendu là. Donc, je pense que les scientifiques, leur rôle, c'est d'alarmer. Maintenant, il faut réagir.
Alors, puisque vous parlez de réaction, Monsieur Quirion, il y a un domaine dans lequel la diplomatie scientifique pourrait être fort utile. C'est justement l'environnement. Il y a quand même un certain désaccord encore qui se ressent, peut-être pas sur la réalité des changements climatiques, mais sur la manière dont il faut l'aborder. Évidemment, il y a des impacts sur l'économie, sur les industries. Les pays abordent ça de manière un peu différente. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un mouvement collectif, mondial. Sur le plan de la diplomatie scientifique, il y a quand même des discussions internationales. On en est où?
Il y a eu beaucoup, c'est sûr, par rapport à la COP21 à Paris, où là, vraiment, il y a un effort assez important signé l'entente de tous les pays qui étaient là-bas. Par la suite, encore une fois, la difficulté, c'est de revenir beaucoup plus local. Localement, c'est quoi l'impact de tout ça pour moi, travailleur dans un quartier de Montréal ou travailleur à Rimouski ou n'importe où dans le monde? Donc, et là, on doit changer probablement nos attentes de ce côté-là et dire, oui, ça va peut-être, entre guillemets, faire mal pour un certain temps, parce qu'on doit maintenant dire les changements climatiques, ça va avoir un impact sur moi. On change les choses, on change les façons de faire. Et là, ça va amener les diplomates, la diplomatie scientifique à faire les choses différemment. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, oui, ici au Québec, au Canada, mais encore plus en Afrique.
Alors, l'Afrique, on va y venir, hein, parce qu'effectivement, quand on parle de diplomatie scientifique à travers le monde, on évoque aussi, on est au Québec, la francophonie en innovation. C'est quand même un terrain de jeu vraiment intéressant. Mais je voudrais revenir sur, justement, le rôle du Québec comme leader dans cette diplomatie scientifique. On évoque le fait que le Québec marque actuellement des points en innovation. On pense notamment sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur l'Arctique. Est-ce que, justement, il a un rôle majeur et leader à jouer sur ces questions-là et éventuellement sur d'autres questions scientifiques à travers le monde du Québec?
Oui, je pense que le Québec, on est petit, hein, 8 millions d'habitants, souvent c'est la banlieue de New York ou de Shanghai, là. Donc, si on veut augmenter l'impact de ce que l'on fait en recherche et innovation, il faut faire des partenariats internationaux. Et le Québec peut le faire, le Canada, je dirais aussi, sans prétention. Donc, très souvent, c'est relativement facile d'ouvrir des portes à l'étranger pour le Québec. Le Québec, en termes de changement climatique, d'impact des changements climatiques sur notre société, a quand même été un leader avec les bourses de carbone, etc., etc. Donc, on peut jouer un rôle important là-dedans. Lors de la COP21 et par la suite 22 à Marrakech, le premier ministre du Québec de l'époque avait annoncé un grand programme d'aide, de financement de projets reliés au changement climatique en Afrique. Donc, les premiers résultats, les premiers projets ont été annoncés, les résultats ont été annoncés récemment. Il va y avoir une autre compétition. Donc, la place du Québec, comme en Afrique, pour aider, sans être prétentieux, c'est-à-dire on peut peut-être aider un peu, nous, à aller un peu plus loin par rapport à notre expérience. Oui, on n'est pas dans le désert en Afrique, du Sahara, ce n'est pas du tout la même chose ici. Mais en Arctique, les problèmes sont encore plus criants qu'on peut les voir là-bas. Donc, je pense que l'expérience, ce qu'on a appris jusqu'à date, c'est loin d'être parfait, mais on a fait des progrès. Donc, ça peut aider peut-être d'autres pays, d'autres régions du monde à réagir.
Alors, justement, vous nous amenez sur ce terrain, effectivement, de l'Afrique et du lien qu'on peut établir avec l'Afrique. Et on pense évidemment à cette francophonie de l'innovation. On sait que l'Afrique est jeune, jeune population. Je crois qu'en 2050, elle représentera à peu près 90% de la francophonie en termes de population. C'est une Afrique qui attire les convoitises des puissances majeures, on va dire. Est-ce que le fait de travailler sur cette francophonie de l'innovation, notamment avec l'Afrique, ça peut être un outil de développement important, voire majeur? Et est-ce que ça peut aussi être une solution aux pénuries de main-d'œuvre qu'on est en train aujourd'hui de constater dans certains secteurs? Est-ce que finalement, on doit former justement des gens là-bas pour pouvoir éventuellement pallier les problèmes qu'on a, nous, pays vieillissants?
Oui, je pense qu'en termes de changement démographique, le Québec est une région du monde, une des plus âgées en termes de moyenne d'âge. Le Japon est le premier. Nous, on est souvent... Tu sois le deuxième plus âgé que les autres provinces au Canada. L'Afrique, comme vous avez dit, très, très, très jeune. Le futur, la francophonie, n'est pas en France, n'est pas au Québec. Il est en Afrique. Donc, vraiment, de créer des liens avec eux là-bas. Et ça peut commencer du côté de l'enseignement. L'enseignement supérieur, les liens avec les universités, avec les collèges, les allers-retours. Et ce n'est pas pour dire qu'on veut attirer tous les Africains ici, et ils restent ici après. Il y en a un certain nombre qui vont
vous
rester.
Vous avez bien dit créer des liens.
Plusieurs vont faire les allers-retours, et c'est des liens à long terme.
Donc ça va dans les deux sens, ça.
Ça va dans les deux sens, et on apprend d'eux, eux apprennent de nous. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont, en termes d'innovation, ils n'ont pas eu besoin d'avoir le fil électrique pour le téléphone, donc ils sont passés directement au cellulaire. C'est un peu la même chose maintenant dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple. Certains pays africains, pas nécessairement francophone, mais à tout le moins francophile, comme le Rwanda. Le président a décidé d'investir en intelligence artificielle, l'ordinateur quantique et l'Internet des objets. Donc, c'est le futur de ce pays-là. Là. Donc, je pense qu'on peut faire de plus en plus et travailler avec eux de ce côté-là.
Puis, on voit que les partenariats se créent entre les universités québécoises et certaines universités africaines. On pense notamment à Trois-Rivières, à l'Université de Trois-Rivières. C'est justement ça, l'avenir, c'est ces partenariats aussi en recherche.
Je pense que oui, du côté de la francophonie. Mais il faut être là à long terme, une certaine pérennité. Parce que c'est certain que certains pays, comme la Chine, investissent de façon majeure. Et des jeunes là-bas, quand je suis allé là-bas, me disent est-ce que je dois continuer à apprendre le français ou plutôt aller vers le mandarin? Fait qu'il faut qu'on soit présent, sinon les autres vont prendre la place.
Alors, on a commencé à entamer la question de la main-d'œuvre scientifique et sa valorisation. C'est ce qui nous intéresse beaucoup ici chez Ces Sciences. En termes de main-d'œuvre scientifique et technique, parlons de la place des femmes, qui est effectivement un bassin important et pas encore tout à fait présent. On en est où au Québec?
On fait des petites avancées, mais je pense qu'il faut commencer très, très tôt. Au primaire, à l'école primaire, à l'école secondaire, parler des mathématiques, parler des sciences et démystifier tout ça. Parce que je pense que les femmes, les jeunes filles peuvent apprendre les mathématiques aussi bien que n'importe quel garçon. Donc, il faut vraiment avoir des approches peut-être un peu différentes et d'expliquer un peu les mathématiques. Ça peut servir à quoi? Et de ce côté-là, déjà, il y a des programmes. Les brouillards, les petits débrouillards et autres. Là, il y a des programmes au Québec là-dedans, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et aussi, lorsqu'on arrive un peu plus avancé dans la carrière, si on arrive au niveau universitaire, donner des places aux femmes aussi. Avoir des modèles de professeurs, des femmes.
Sensibilisation et inspiration.
Et vraiment dire, là, à choix, pour deux curriculums, on va favoriser une femme. Et on est rendu là du côté diversité, inclusion et égalité.
Alors, l'intelligence artificielle, on l'a entendu dans le reportage de Jessica, pose de réels enjeux en termes de recrutement de main-d'œuvre, et en particulier celle qu'on appelle la main-d'œuvre appliquée, celle qui finalement utilise, fait que ça fonctionne effectivement dans les laboratoires. Et l'autre enjeu, c'est la disparité régionale qui est constatée entre Montréal et donc les régions. Sur ces deux enjeux, on aimerait vous entendre, puis surtout savoir si vous avez des solutions à suggérer au gouvernement. Ça fait partie de votre rôle de scientifique en chef.
Vraiment, en termes d'intelligence artificielle, le positionnement de Montréal, c'est assez exceptionnel. Donc, faut dire oui, il faut continuer. Encore une fois, c'est une question d'y aller pour le long terme, parce que les investissements sur Montréal sont importants, mais c'est 10 fois plus en Chine, c'est 10 fois plus en Corée du Sud. Donc, c'est énorme.
Pour relativiser, c'est ça que vous dites.
Pour relativiser. Mais c'est vrai qu'au Québec, c'est centralisé beaucoup sur Montréal. Donc, il faut trouver des façons, et ça se fait maintenant, j'écoutais le reportage avant, là, c'est super, comme avec Sherbrooke et autres, mais Québec International, à Québec, travaille beaucoup sur ça maintenant, avec les collèges, avec les universités là-bas, pour recruter davantage d'étudiants. Souvent, c'est des étudiants étrangers, parce qu'il manque de jeunes Québécois qui vont dans le domaine, là. Mais vraiment, avoir des stages en milieu de pratique, donc très pratique. Ubisoft, c'est bien sûr du vidéo, mais de plus en plus l'intelligence artificielle, Ubisoft a ouvert un site là-bas. Ils viennent d'ouvrir un site au Saguenay. Donc, je pense que maintenant, ça va commencer. Et de bâtir ce genre de réseau-là, pour nous, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de créer l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Et le réseau universitaire va être impliqué. Les 18 universités du Québec vont faire partie du réseau.
Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que réussir l'intelligence artificielle, c'est réussir sa construction sociale et économique aussi. Il y a un discours, un peu comme l'environnement, dans le fond, c'est typique des grands changements et des grandes ruptures technologiques. Là, il y a un discours un peu pessimiste autour de l'intelligence artificielle qui parle des potentiels laissés pour compte parce qu'effectivement, il y a une possibilité de créer des formations et des compétences intermédiaires qui fassent que tout le monde s'élève autour de ce que suggère l'intelligence artificielle. Et puis, il y a évidemment toutes ces promesses incroyables, notamment dans le domaine de la santé, y compris dans le domaine industriel, qui sont en cours. Alors, on penche de quel côté sur le plan impact économique là, est-ce qu'on est plus du côté des laissés pour compte ou du côté de la croissance économique?
Moi, je suis toujours, comme je disais au début d'entrevue, très optimiste. Donc, il va y avoir des impacts économiques, mais il faut faire très attention de ne pas laisser les gens en arrière. Donc, la littératie numérique, très important de ne pas laisser les gens en arrière. Donc, la formation dès l'école primaire, le secondaire, mais aussi les personnes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, partout au Québec. Et ça va être un peu le rôle aussi de l'Observatoire sur les impacts sociétaux, de s'assurer qu'on ne laisse personne en arrière. Que les différentes communautés, par exemple, les communautés d'immigrants, c'est peut-être plus Montréal, mais quand même, comme tu dis, s'assurer qu'on peut aussi leur donner des outils pour comprendre la littératie numérique, très important. Les communautés du Nord, très important. Encore, malheureusement, l'Internet ne fonctionne pas très bien dans plusieurs communautés du Nord. Mais ces genres d'outils-là vont faire partie-là, outiller notre population pour le futur en littératie numérique, en intelligence artificielle. C'est essentiel, ça change le monde. Qu'on le veuille ou non.
Mais là, Rémi Quirion, on évoque tous ces défis, ces besoins. Il y a une politique qui est mise en place en recherche, en innovation, qui a été mise en place par le précédent gouvernement. Question simple, est-ce que le nouveau gouvernement va poursuivre la lancée? Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose qui va être mis un peu plus... Est-ce qu'on va donner de l'ampleur à cette politique-là? On en est où?
On est en début. Du côté stratégie québécoise de recherche et innovation, c'est au début du processus qui a été rassurant avec le nouveau gouvernement. C'est bon, qu'on ne recommence pas tout ça à faire 2 ans de consultation.
On ne refait pas la SQRI, c'est ça.
Pour arriver au même point. Ouais. Maintenant, c'est un peu peut-être mon rôle et le rôle de collègue en milieu académique de dire c'est super. Déjà, on avait un plan sur 5 ans. Il faut aller un peu plus loin. Et par exemple, la stratégie numérique du gouvernement du Québec, bonne première étape, il faut aller plus loin. Encore une fois, les provinces, les pays investissent, mais le secteur privé investit encore davantage. Ce que le Québec peut faire dans un an, Google le fait dans un mois. Là. Donc, il faut vraiment aussi être là pour le long terme.
Et vigilant.
Oui, c'est intelligent que vous évoquiez la stratégie numérique à côté de la SQRI, la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, parce qu'effectivement, lorsqu'on lit cette SQRI, il y a plein de stratégies qui convergent autour de ce cadre. Il y a la stratégie de l'aluminium, il y a aussi la stratégie en entrepreneuriat qui est cruciale pour dynamiser l'innovation. Donc, effectivement, c'est un ensemble complexe. Mais juste sur la SQRI, il y a quelque chose qui est quand même frappant par rapport aux anciennes versions, c'est l'importance qui avait été donnée à la commercialisation. On ne le voyait pas autant avant dans les anciennes versions de la SQRI. On est toujours mieux classé au Québec sur le plan des publications scientifiques que sur le plan des retombées économiques de la recherche industrielle. Et on entend parfois aussi un malaise du milieu académique à l'idée de s'associer trop rapidement au privé. Est-ce qu'il y a quand même une avancée de culture, je dirais, dans le milieu scientifique par rapport à ça?
Je pense que oui, c'est pas unique au Québec. que le Canada ne fait pas très bien de ce côté-là non plus. Là, il y a beaucoup de défis au niveau canadien. Le gouvernement du Canada essaie de développer de nouvelles approches pour favoriser la commercialisation. Au Québec, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'offrir, nous, pour les fonds de recherche du Québec, par exemple, d'offrir plus de stages en milieu de pratique. Et le milieu de pratique peut être aller travailler chez Google, aller travailler chez Amazon ou quoi que ce soit. Mais aussi, ça peut être aller au musée, là, les OBNL, par exemple. C'est ouvert à tous. Donc, les jeunes qui veulent avoir des stages peut-être plus pratiques, ben ça, on va le faire davantage. Donc, pour peut-être démystifier un peu l'innovation et la commercialisation. Dans la SQRI, il y a quand même pas mal aussi ce côté d'innovation sociale. Quand on parle, on pense innovation, souvent on pense à un produit.
Technologie, oui.
Ouais. Mais aussi tout cet aspect d'innovation sociale qui est très important. Et le Québec a certaines avancées là-dedans. Donc on veut continuer à investir davantage de ce côté-là. Et c'est un peu un des défis des fonds de recherche.
Merci Rémi Quérion. Je rappelle, vous êtes le scientifique en chef du Québec. Autrement dit, le boss, hein, tout simplement. merci beaucoup d'être venu au plateau de C'est l'Hebdo.
Merci bien.